Vous écoutez France Culture.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs. Come and go with me. Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons un pastel de 64 cm par 48, donc vertical, réalisé par Odilon Redon en 1907, l'année de la mort de Cézanne. Il est intitulé « Le vitrail » et représente une femme, dit-on, de profil sous une voûte gothique. Il est conservé à la Kunsthaus de Zurich. Odilon Redon, donc, qui est né en 1940, mort en 1916, est celui qui a profondément marqué la génération symboliste, puis celle des nabis, puis celle des fauves, Matisse par exemple. Il était un ami du célèbre poète Stéphane Mallarmé. Ils étaient réunis à leur insu dans l'ouvrage à rebours de Huysmans. Ils entretenaient une relation privilégiée. Mallarmé offrait à Redon ses œuvres, parées de dédicaces, tandis que Redon offrait à Mallarmé ses albums de lithographie. Et le poète remerciait le peintre dans des lettres subtiles, où tantôt il définissait ses impressions globales. Par exemple, vous agitez dans nos silences le plumage du rêve et de la nuit. Tantôt il passait en revue les gravures, en les cernant de formules élogieuses. Pour Mallarmé, Redon est le peintre. Le peintre, c'est peut-être pas très juste de dire ça. L'artiste, en tout cas, du noir. Un jour est venu pourtant où Redon est passé de l'œuvre noire à la couleur, des fusains au pastel et à la peinture à l'huile. Mais il demeura toujours celui en qui Mallarmé vit celui qui dépassait l'impressionnisme, celui qui agite le rêve et illustre l'au-delà. Et c'est à Redon qu'il demande donc d'illustrer l'édition originale de son ultime et sublime poème. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Poème qui finalement ne sera pas illustré car Mallarmé mourut avant la fin de ce travail. Mallarmé donc notre regardeur.
Mon bon et cher Redon, quel cadeau. J'ai voulu aller vous serrer la main lundi, mais étais et suis déchiré de mauvaise nuit. Un de ces jours je vous porterai pour ma part quelque chose, mais vous perdrez au change. Le tirage, pour en finir avec tout ce qui n'est pas votre génie de visionnaire sûr, donne des noirs royaux comme la pourpre et des blancs qu'aucune pâleur, vraiment les magiques feuillets. Mais mon cher, vous avez miré là tout un mystère que nul n'entrevit. Me voici stupéfié encore par cette mort. Squelette en haut, en bas, en roulement puissant tel qu'on le devine ne finir, je ne crois pas qu'artiste en eût fait ou poète rêvé image ainsi absolue. Et la pauvre joue triste endormie au billot, toutes vos lointaines inventions. Merci. Ne faites pas trop peur à Madame Redon. Nos mains dans les vôtres. Stéphane Mallarmé.
En 1907, lorsqu'il réalise ce pastel, qui est vertical, de 64 cm par 48, Redon a près de 70 ans. Après avoir essentiellement travaillé en noir et blanc, voici 17 ans environ qu'il a entamé une seconde partie de son œuvre, dans laquelle la couleur devient un puissant ressort pour sa créativité. L'œuvre que nous considérons aujourd'hui représente une grande fenêtre gothique, en ogive. La partie architecturale, c'est-à-dire les bords du tableau, sont exécutés au fusain d'un trait décidé et par contraste, les couleurs vives incendient l'intérieur de l'arche. La composition est purement imaginaire. Un profil brun, de femme sans doute, occupe tout à droite le tiers supérieur de la fenêtre. Le contour de la tête est surligné de violet et de celle-ci paraît émaner un tourbillon de méandres, de nuages, de floraisons diaprées, moirées, éclatantes, qui se répartissent par zones dans le tableau. En bas, un bandeau, bleu de Parme, au-dessus, des fleurs vermillon se pressent contre la robe du personnage, puis des blancs, des ivoires, des verts très pâles, puis plus haut, une grande surface jaune, animée de points lavande, et puis, tout autour de la tête, un vaste nuage véronèse et brun, surmonté, et à mon avis ça a un sens symbolique assez fort, à la pointe de l'ogive d'un triangle violet. La discontinuité des couleurs semble exprimer un curieux surnaturalisme, tandis que le personnage, dont on croit voir la rêverie figurée par le chaos des nappes colorées, est comme une vision plus qu'une réalité, en fait une sorte d'apparition mentale. L'idée d'un être plus que la description de celui-ci. Le regardeur de ce curieux vitrail devient l'invocateur de l'apparition qu'il a désormais sous les yeux. Celle d'une curieuse conjonction entre l'apparence des images et l'apparence d'un monde instable, indéterminé et en perpétuelle, en permanente recréation. Pour en parler, je reçois dans notre émission Maxime Rossi. Bonjour Maxime.
Bonjour Jean.
Vous allez bien ?
Ça va bien, merci.
Bon, vous avez une exposition en ce moment, je crois ?
Oui, à la Fondation Schneider, c'est à Wattwiller, et également à Vienne, près de Lyon, dans le nouveau centre d'art dirigé par Marc Bendokoff, qui s'appelle la Halle des Bouchers.
À la Fondation Schneider, c'est Philippe Régnier, le commissaire ?
C'est un commissariat de Philippe Régnier, et autour d'une thématique de l'image dans l'onde et de Narcisse.
Voilà, alors peut-être qu'il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas votre travail, que vous travaillez beaucoup sur des organisations de hasard, de figures comme ça, qui sont dues pas seulement à vous-même, mais à des sortes de collaborations que vous avez parfois avec des phénomènes chimiques ou des phénomènes naturels. Je pense par exemple à des moulages que vous avez faits de cachets effervescents et qui donnent des formes très étranges. Je pense aussi à ce travail que vous avez fait il y a 2 ou 3 ans, qui était très beau, je crois, au Père Lachaise, en déposant sous les arbres qui sont au-dessus de la tombe de Chopin des feuilles de papier, et tout d'un coup les taches de couleur qui tombaient de ces feuilles faisaient d'autres notes, comme une sorte de composition supplémentaire à cela. C'était extrêmement beau, et en ce moment, me semble-t-il, vous préparez une comédie musicale.
C'est bien ça ? Oui, c'est ça.
Madame, vous êtes avec nous également pour évoquer Dylan Redon, et pour cause, vous êtes conservateur en chef au musée des arts graphiques, au département des arts graphiques du musée du Louvre, pardon, et vous avez été l'un des commissaires de l'exposition Redon du musée d'Orsay il y a quelques années.
Voilà, avec Rodolphe Rapetit et Valérie Sueur.
Exactement. Et vous aviez auparavant travaillé sur 2 artistes qui ne sont pas sans relation avec Redon, finalement. Böcklin, il y a une ambiance comme ça, une symbolique un petit peu proche.
Oui,
de ça.
C'est très différent quand même, mais on peut les mettre un peu dans la mouvance symboliste, effectivement.
Et vous aviez travaillé également sur les autoportraits de cet extraordinaire peintre nordique, Spilart.
Voilà, ça faisait suite à une très belle acquisition du musée d'Orsay.
Et l'exposition du musée d'Orsay de Dylan Redon était en 2007, je crois.
Quelque chose comme ça. Un peu plus tard, je crois, 2011, non ?
En 2011. En 2011 au Grand Palais, vous avez raison. Et en 2007, vous aviez fait un livre vous-même sur Dylan Redon.
Oui, j'avais fait à l'occasion d'un petit accrochage, une publication, effectivement, sur cet artiste.
Alors, Maxime Rossi, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez regardé cette œuvre de Redon que l'on voulait considérer ensemble aujourd'hui ? C'était peut-être pas le Redon auquel vous attendiez ?
Non, c'est pas la première image qui me venait... Pour Redon, je pensais plus au noir, à des choses un peu surréalistes comme ça. Et puis, je l'ai découvert sur mon iPhone. Je pense que ça a orienté mon regard aussi, parce que j'ai découvert en même temps l'image et un peu plus tard des textes.
Je ne sais pas ce que Redon aurait pensé de l'iPhone, mais bon.
Mais justement, il y a un truc rigolo dans la manière dont il décrit un peu les gestes de son travail. De mémoire, il parle de transposition, de choses comme des glissements, des agrandissements, des réductions, etc. Ça m'a fait penser un peu aux gestes qu'on utilise aussi sur son iPhone pour passer d'une image à l'autre, pour l'agrandir, la réduire. Il parle aussi d'appuyer sur une image, des choses comme ça. Voilà, on dirait qu'il parle d'un écran tactile, en fait, quand il parle de sa manière d'aborder... ces différents thèmes, ces différentes images.
Ouais. Et c'est très intéressant parce qu'il y a chez Redon effectivement quelque chose qu'on appelle souvent la discontinuité. C'est comme une image qui serait jamais résolue dans sa construction. C'est en fait quelque chose qui l'oppose par exemple à Cézanne, qui lui est une sorte de maçon comme ça du tableau, maçon extraordinaire, hein, un grand maître. Et il n'y a pas cette volonté de construction chez Redon.
Ça fait penser un peu à Bachelard, cette idée de discontinuité. C'est une méthode empirique en fait. On a l'impression qu'il découvre un peu ces images en les faisant, voilà, qu'il n'y a pas de thème préconçu. Même quand il illustre des poèmes, c'est la sensation que ça donne. Je trouve qu'il se donne une liberté comme ça d'interprétation ou de vague. Voilà. C'est la première impression que ça m'a donnée, en tout cas.
Qu'est-ce que vous en pensez,
oui,
madame?
C'est vrai qu'il y a souvent aussi ce terme dans la terminologie de Redon, de surgissement, et quelque chose qui... Alors, il n'aimait pas qu'on parle de travail de l'inconscient chez lui, mais il est certain qu'il y a quelque chose qui arrive en quelque sorte dans son œuvre, qui se manifeste à partir de son étude du réel, qui vient à lui en quelque sorte, et qui n'est pas dans un plan prédéfini, dans une démarche académique de la préparation, du dessin préparatoire, et puis d'un achèvement progressif de plus en plus abouti. On est plus dans effectivement quelque chose comme le surgissement, le passage de l'ombre à la lumière, c'est plus proche, je crois, de son travail.
Vous dites qu'il n'aimait pas qu'on parle de l'inconscient, mais néanmoins son travail circule autour de cette sorte d'alchimie du rêve, des arcanes secrètes du fonctionnement psychique, non?
Oui, bien évidemment. C'est simplement qu'il était très, très... circonspect, très très attaché à ce qu'on disait ou pas de son œuvre. Il a repris par exemple Émile Bernard quand il a publié cet article dans l'Occident sur son travail. Il l'a complètement annoté en niant en quelque sorte ce qu'affirmait Bernard. Et la même chose lorsque Francis Jam a écrit en 1904, je crois, dans Vers et prose, que son œuvre était une forme de surgissement de l'inconscient, il l'a aussi corrigé en quelque sorte. Il n'aimait pas trop que les autres définissent son travail et il avait une idée très personnelle, très idiosyncratique de ce qu'il faisait.
Alors Émile Bernard, ce n'est pas seulement un écrivain, un critique d'art, c'est d'abord un grand artiste, n'est-ce pas, donc de l'école de Pont-Aven, un ami de Gauguin, et qui aura une énorme influence sur le milieu nabi, sur le milieu symboliste époque, et ce qui sera un grand regardeur de Cézanne également d'ailleurs, pas seulement de Dylan Redon. Voilà. Mais néanmoins, une amitié les réunit, je pense, autour d'une sorte de conception... spiritualiste, agnostique, mais spiritualiste de l'image.
Voilà, alors Redon, là encore, n'aimait pas trop qu'on dise qu'il y avait de l'esprit dans ses œuvres, des fantômes qui circulaient entre ses lignes. Il n'aimait pas cette définition-là. Et il voulait toujours revenir à la nature en disant « il n'y a pas de surnaturel dans mon art, je m'attache à la nature ». Mais il y a quand même un lien très important entre Redon et Bernard.
Il y a un petit peu un masque derrière tout cela.
Oui, et une stratégie, comme l'a bien montré Dario Gamboni. Il y a une façon de... maintenir un mystère inaccessible sur son art.
Il utilise ce mot, je ne sais pas ce que ça évoque pour un artiste. D'ailleurs, pas tout artiste a forcément des significations qui lui viennent à l'esprit lorsqu'il est en train de travailler. Elles ne sont pas toujours intentionnelles. Parfois, elles surgissent comme ça dans le travail. Et Odilon Redon semble vouloir privilégier toujours ce mot, l'indéterminé. Essayer de sauvegarder l'indéterminé. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour un artiste aujourd'hui?
Pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un écart entre l'intention, quand on met un projet en œuvre, et puis la manière dont ce projet va être reçu. Il y a toujours un peu une distorsion entre les deux. Et je trouve que l'indéterminé, souvent, c'est un peu ce qui intervient justement entre ces deux choses-là. C'est une analogie personnelle, mais ça me fait penser à ce que Étienne Ducroux, qui est un peu le père du mime moderne, appelait l'effet gong. C'est-à-dire qu'on frappe le gong, c'est une intention, mais ce qu'on perçoit ou ce que perçoit le spectateur, c'est une série de vibrations comme des ronds dans l'eau. Et ça va être perçu comme une série d'interprétations. Et au milieu, il y a un peu l'indéterminé, il y a un peu la situation, les événements, etc.
Ce que vous décrivez, Marie Vercellet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ce que décrit Maxime Rossi, c'est quasiment la définition de la poésie symboliste, qui se propage par cercle comme un caillou dans l'eau, et dont les significations et les résonances ont plus d'importance quasiment que les mots qui les provoquent.
Oui, et qui trouve aussi comme relais, et c'est vraiment le cas chez Redon, l'imaginaire du spectateur. Donc le propre imaginaire du spectateur qui donne un sens qui ne préexiste pas, c'est exactement ce que vous disiez, qui interfère tout à coup, qui rentre dans le champ de l'interprétation et que l'artiste ne peut pas avoir prévu. Et Redon insistait beaucoup là-dessus, sur le rôle de l'imaginaire du spectateur qui devait lui-même achever, si tant est qu'on puisse l'achever, mais achever cette œuvre, d'où l'indéterminé, effectivement. Il a été, on le voit très bien en voyant n'importe quel catalogue de son œuvre, notamment toujours très évasif sur les titres de ses œuvres. Les titres n'expliquent pas l'iconographie de l'œuvre qu'on a sous les yeux. Enfin, pour quelquefois, elle donne quand même des références. Et ça, c'est aussi le signe de cette ouverture à l'interprétation du spectateur qui interprète comme il veut et qui termine l'œuvre à sa façon, en quelque sorte.
Alors, ça me fait penser à cette phrase de Mallarmé, « Le sens trop précis rature ta vague littérature ».
Absolument, c'est très proche, tout à fait.
Alors, cette amitié, Odilon Redon-Mallarmé, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, elle est née dans les années 80 et Mallarmé a été, peut-être à la suite de Huysmans, l'un des premiers à comprendre un petit peu Redon, qui est resté très longtemps un artiste méconnu, mal compris. Il en souffrait beaucoup. D'ailleurs, il faut quand même avoir à l'esprit que Redon, il commence ses expositions personnelles à l'âge de 40 ans. C'est très tard au 19e siècle.
Hein. Oui, il était un peu lent, hein, mais il a...
Enfin, lent, les autres aussi, c'est-à-dire que les autres ont mis du temps à le comprendre. Et...
Parce que je me souviens que vers 20 ans, il commence à suivre des cours de peinture. À 30 ans, il découvre la gravure. Donc c'est lent.
Oui.
Il a un processus de maturation et d'ailleurs de répétition. Son travail est très lent. Mais je vous ai interrompu.
Et donc il apparaît sur la scène artistique assez tardivement et parmi les premiers probablement qui un peu comprennent l'univers de ces noirs, il y a Mallarmé après Huysmans et peut-être le fait qu'il ait justement accueilli, compris son œuvre s'est traduit par la suite en une véritable amitié qu'il a suivi jusqu'à la mort de Mallarmé. Le décès de Mallarmé l'a énormément affecté. Geneviève, la fille de Mallarmé, était la marraine de son fils. Il y avait une relation intime, familiale, une très grande proximité des deux artistes.
Oui. Alors,
Redon n'était pas vraiment un mondain. Donc il avait, il avait quand même ses amitiés qui étaient des amitiés très sincères, très profondes.
Oui, il a été en voyage avec Mallarmé. C'était plus que les fameux mardis de la rue de Rome. C'était des rendez-vous réguliers, d'amis, de profonde amitié,
d'échanges
avec des promenades ensemble.
Et puis ce projet que vous avez mentionné qui n'a malheureusement pas abouti.
Puis l'illustration du coup de dé, le dernier grand poème de Mallarmé. Un petit mot, Maxime Rossi, avant que nous plongions dans l'exploration de ce tableau tout à l'heure, un petit mot sur l'interprétation. Au fond, je pense à un des grands admirateurs de Redon, très connu lui aussi, mais pas comme admirateur de Redon, qui est Marcel Duchamp, et quelqu'un qui a ouvert infiniment son travail à l'interprétation. Est-ce que c'est quelque chose qui a encore aujourd'hui l'organisation de machines interprétatives destinées à être infiniment ouvertes et dont les portes ne se refermeraient jamais, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse un artiste d'aujourd'hui?
C'est plus une problématique pour moi. Je trouve que machine, c'est vraiment la bonne définition. C'est vraiment une machinerie psychologique, en fait. Mais je préfère que ce soit une expérimentation qu'une interprétation. Voilà.
Dans votre cas?
Oui, je préfère que le spectateur s'approprie vraiment une situation, un moment, et... Ça me correspond plus et je trouve que ça met moins de poids sur les épaules du geste artistique qui serait quelque chose de supérieur ou très chargé.
Alors, Maxime Rossi, quand vous avez regardé le tableau que nous devons observer aujourd'hui et que j'ai choisi avec admiration, étrange de représenter un vitrail. En tout cas, il s'appelle comme cela. Et effectivement, il y a une relation gothique comme ça qui est particulière, mais puisqu'on a l'ogive. Mais en fait, de ce vitrail, on ne perçoit que l'éclat, en aucun cas une description technique. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ce tableau?
Bizarrement, plus un parfum, voilà.
C'est très symboliste.
Oui, mais je ne sais pas. Je ne peux pas décrire pourquoi. Oui, ça doit probablement être ça. Je ne sais pas. Plus un parfum qu'autre chose. Et puis, une sensation étrange aussi, parce que il y avait cette répétition entre ce vitrail et d'autres de ses œuvres. On retrouve un peu les mêmes effets. Voilà. On change de tête, on change de cadre, on change de couleur. Mais globalement, il y a une séquence comme ça dans son travail. Comme si... Enfin, il y a un retour de quelque chose fréquent. C'est plus ça qui m'a étonné, en fait.
C'est un thème qu'il reprend souvent, il me semble, le vitrail, cette sorte de célébration de l'art gothique.
Oui, il y a plusieurs œuvres de Redon donc, sur le thème du vitrail. La première étant un très beau noir, une œuvre intermédiaire, en quelque sorte, entre les noirs et puis le pastel, qui est conservé au musée d'Orsay, qui vient de la collection de Ricardo Vignes, qui était ce pianiste très lié au cercle de Fontfroide, et dans lequel on voit vraiment le surgissement de la couleur dans une architecture sombre gothique. Et puis il a repris par la suite, effectivement, ce thème du vitrail, qui est celui de l'éclat de la couleur, de la luminosité, de la couleur qui perce dans le noir. Et c'est vrai que Redon a eu une finalement une architecture de sa carrière assez dramatique. Il est passé du noir à la couleur. Évidemment, il faisait auparavant déjà du pastel, il a fait de la peinture quand il était plus jeune. Mais c'est vrai que vers le milieu des années 90, il y a ce changement très dramatique.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en 90 ? Tout d'un coup, le noir lui est devenu quasiment impossible, étranger.
Oui, étranger à lui-même, comme il le dit. Lors d'une visite chez un de ses anciens collectionneurs, il trouve que les œuvres, il ne reconnaît quasiment pas ses œuvres.
C'est comme si ce n'était plus lui.
Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme si ce n'était plus lui, une étrangeté. Bah, c'est toute son évolution personnelle. Du passage aussi, c'est un artiste qu'on dirait aujourd'hui peut-être dépressif, hein, qui a été très longtemps, effectivement, dans un noir qui était aussi celui de sa souffrance morale, psychologique, de ses difficultés. Et puis, sa vie de famille lui a apporté beaucoup de bonheur, et puis il est passé donc au pastel dans les années 90.
Alors écoutons Odilon Redon écrire et donc être lu sur cette question de peindre.
Peindre, c'est user d'un sens spécial, d'un sens inné pour constituer une belle substance. C'est, ainsi que la nature, créer du diamant, de l'or, du saphir, de l'agate, du métal précieux, de la soie, de la chair. C'est un don de sensualité délicieuse qui peut, avec un peu de matière liquide la plus simple, reconstituer ou amplifier la vie, en empreindre une surface d'où émergera une présence humaine, l'irradiation suprême de l'esprit. C'est un don de sensualité native. On ne l'acquiert pas. Une œuvre conçue en vue d'un enseignement sera dans sa facture conduite par de mauvais chemins. Un tableau n'enseigne rien. Il attire, il surprend, il exalte. Il mène insensiblement et par amour au besoin de vivre avec le beau. Il lève et redresse l'esprit, voilà tout. Non, il ne faut pas enchaîner son art à des convictions politiques, ni à une morale. Au contraire, l'art doit fournir aux philosophes, aux penseurs, aux savants, et peut-être même aux théosophes, qui sait, matière à spéculer et à aimer.
Maxime Rossi, nous entendons une étrange musique, mais de quoi s'agit-il ?
Alors ça c'était en fait la musique d'une vidéo montrée à Biennale de Sydney et qui sera montrée aussi au MUMOC en septembre, qui a été tournée et le son enregistré à Capricorn Hill, qui est un endroit où vivait Max Ernst en Arizona avec Dorothy Tanning. Et c'est à Sedona, en fait. C'est aujourd'hui la capitale du New Age.
Voilà. Dans le sublime Painted Desert, comme ça, ce grand désert rouge admirable. Et donc, on entendait Odilon Redon parler de sa relation à la science, au savoir, à la spéculation philosophique ou théosophique. Qu'est-ce que c'est pour vous, comme artiste aujourd'hui, l'importance de la science, par exemple ? C'est quelque chose qui est inspirant ?
Je ne sais pas. très honnêtement, non, je ne sais pas.
Ça ne vient pas directement dans votre travail ?
Pas immédiatement, non. La technologie, oui, ça m'intéresse comme quelque chose de hyper présent, hyper contemporain. Ce qui m'intéresse, c'est plus les gestes qu'on peut y associer, les gestes qu'on associe à des données, des choses comme ça, voilà.
Marie-Pierre Salé, il y a un événement amical dans la vie d'Odilon Redon qui fait que son intérêt par la science a été allumé par une personne qu'il a rencontrée à Bordeaux quand il était jeune. Que s'est-il passé ?
Alors, effectivement, vous faites allusion à Clavaux,
bien sûr,
oui.
ce
botaniste du jardin botanique de Bordeaux. Ça a été très important pour lui parce que Clavaux l'a initié non seulement probablement à la botanique, mais aussi lui a fait lire Shakespeare, l'a vraiment initié à tout un univers intellectuel, littéraire, a vraiment ouvert son esprit, et probablement à Spinoza, enfin vraiment...
Spinoza, voilà. Et Darwin de l'autre côté, et probablement d'autres textes scientifiques qui l'ont beaucoup passionné.
Voilà, et a vraiment été pour lui une ouverture d'esprit, sa véritable formation, puisque on peut dire probablement que l'enseignement qu'il a reçu de Stanislas Gorin, qui avait été un élève d'Isabée, et auprès
Stanislas
de...
Stanislas Gorin, c'était un peintre académique bordelais.
Oui.
C'est ça, qu'il n'a pas eu beaucoup d'influence sur lui, sincèrement.
Non, et c'est plutôt effectivement du côté de Clavaux et du côté de ses découvertes qu'il a fait à travers son amitié avec Clavaux que Redon a été formé.
Parce que pendant toute sa vie de travail, Redon a été, me semble-t-il, animé par cette obsession de l'origine des choses, l'origine de la vie, le développement de la cellule, au point d'en faire un sujet de rêverie permanente, non pas un sujet descriptif, mais un sujet de rêverie. Est-ce là ?
Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il a consacré d'ailleurs un de ses très beaux albums lithographiques aux origines. Il a été marqué, comme la plupart de ses contemporains, par la divulgation et la vulgarisation des idées de Darwin sur les origines des espèces. Et très intéressé aussi par toutes ces revues qui vulgarisaient les découvertes scientifiques sur les cellules, sur les origines marines des organismes. Et ça l'a intéressé non seulement d'un point de vue probablement intellectuel, mais aussi esthétiquement, puisqu'on retrouve parfois dans ses dessins des véritables allusions ou, disons, des formes qui proviennent un peu de ce répertoire divulgué par les revues de divulgation scientifique.
Et par un livre qui avait eu beaucoup d'importance, me semble-t-il, en particulier par la représentation de ces petits protozoaires comme ça qu'il représentait, qui était le livre de Haeckel, qui est sorti vers 1870 oui. En France, et qui était les premières représentations populaires du monde minuscule, si j'ose dire.
Et des origines végétales, ou plutôt marines
de l'humanité.
De l'humanité, oui.
Voilà. Et tout cela était animé par un artiste étrange, puisque au fond c'était aussi un artiste, mais aussi un musicien. Vous insistiez, Maxime Rossi, tout à l'heure sur le sentiment musical ou les sortes d'émanation, comme ça. Vous parliez du gong. Il y a un sentiment très musical, non, dans le travail d'Odilon Redon.
Oui, et dans le catalogue, d'ailleurs, en description de l'image, il parle de fluide suspendu.
Voilà. Oui, c'est une belle expression. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, fluide suspendu?
Personnellement, ça m'a fait penser au processus utilisé pour ses dessins au Père Lachaise avec les feutres qui maculaient les partitions de Chopin. Mais
on le voit assez bien dans ses couleurs. Il y a un aspect fluidique comme cela qui, d'ailleurs, curieusement, à la même période, mais je ne dis pas qu'il y avait un intérêt de l'un pour l'autre, mais ces mondes fluidiques intéressaient énormément beaucoup d'artistes et de théosophes, aussi bien pour essayer de saisir l'expression de la pensée ou la visualisation de la pensée que différents égrégores, personnages comme ça, ectoplasmiques, qui pourraient apparaître. Il y a quelque chose d'un point de vue climatique et pas du tout d'un point de vue influence, d'un point de vue climatique qui est un petit peu dans l'époque, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est aussi, je crois, la dimension proprement décorative de ces pastels qui sont à peu près à la même époque. Il va commencer son travail pour les Gobelins.
Parce qu'il fait des grands travaux de décoration à cette période-là.
Il avait fait auparavant, vers 1900, pour le baron de Domcy aussi, un grand travail de décor pour la salle à manger, où il disait couvrir de fleurs imaginaires les murs de la salle à manger. Il y a aussi dans ce côté disruptif que vous évoquiez tout à l'heure, et puis ces couleurs qui apparaissent parfois les unes à côté des autres, peut-être sans lien formel évident, ce côté proprement décoratif auquel il est de plus en plus sensible au cours de l'avancement de sa carrière.
Qu'est-ce que vous ressentez sur cette importance des nappes colorées, déstructurées dans le travail de Redon ?
Ça, je ne sais pas la technique exacte qu'il emploie avec du pastel, mais il y a une sorte de capillarité en fait à la surface du carton, voilà, de la toile. Et
vous voulez dire que par là il y aurait la création d'accidents ?
Ça ressemble à un tamponnage ou quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais pas s'il est utilisé. Une essence ou quelque chose comme ça pour faire passer la couleur d'une surface à l'autre, mais je trouve que c'est la sensation que ça donne. Vous parliez tout à l'heure d'ambiance ou quelque chose comme ça. Enfin, on peut imaginer un éther, voilà, dans tous les sens. Je ne sais pas s'il a utilisé quelque chose comme ça.
La question de l'éther est en tout cas une des grandes questions scientifiques de la période. C'est vrai.
Donc, est-ce qu'il a utilisé ça pour passer, pour irradier la couleur d'une surface à l'autre? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est un peu l'impression que ça donne, comme pas un frottage, mais vraiment plus un tamponnage ou voilà, une capillarité.
Parce que donc le travail que l'on regarde, donc qui est une sorte de pastel avec fait de nappes colorées qui s'entrechoquent les unes les autres, donne curieusement d'être l'expression d'une émanation de la pensée. Est-ce que vous avez cette sensation? On a l'impression que c'est le fonctionnement intérieur d'un cerveau que l'on voit se dérouler sur le vitrail. En tout cas, ça évoque ça pour moi, mais peut-être que vous voyez ça autrement.
D'un imaginaire, en tout cas, absolument. Oui, c'est un terme qui revient très souvent dans ces textes, dans les propres textes de Redon. Fleurs imaginaires, c'est un terme, vraiment, je crois, qui traduit bien sa pensée. Il y a certains des pastels, je reviens à ce que vous disiez, Maxime Rossi, il y a certains de ces pastels qui sont fixés. Et donc, peut-être qu'il y a effectivement une altération des surfaces à ce moment-là, puisqu'on pulvérise un fixatif qui contient en général de la gomme arabique. Enfin, il y a toute une infinité de recettes au 19e siècle et qui peut modifier un peu l'aspect. Sinon, je crois qu'il utilisait du pastel sec d'une façon... je crois pas qu'on puisse parler exactement de tamponnage, mais peut-être parfois, effectivement, les fixatifs altèrent la couleur et... Il modifie en tout cas l'aspect de surface, oui.
C'est intéressant, parce que, je dirais d'une certaine façon, même au-delà de la technique employée, il y a un effet. Hein, et donc cet effet hasardeux, moi je le ressens assez fortement. Non pas que ça ait l'impression d'être fait au hasard, mais c'est comme si des accidents étaient sans cesse possibles dans les chaos qu'il organise dans l'espace. D'ailleurs, ça se déroule plus dans l'espace en profondeur que dans... Il y a une sorte de curieuse perspective optique.
Ça ressemble à une échographie, non? Quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Ça lui plairait, parce qu'il est tellement soucieux de voir la naissance de l'embryon, n'est-ce pas?
Oui, puis les premières radiographies, tout ça le passionnait absolument. Mais...
Parce que, la question de l'accident m'intéresse parce que j'ai eu l'impression que lorsqu'il a fait ses premiers travaux d'étudiant, ou d'étudiant même attardé, comme on le disait tout à l'heure, vers 30 ans, et lorsqu'il a rencontré cet extraordinaire graveur fantastique, l'un des plus grands graveurs de l'histoire, je pense, Rodolphe Bredin, personnage très marginal dans la scène bordelaise des années 60, 1860, eh bien, on a l'impression que ce graveur lui apprend à se servir de l'accident. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas si j'utiliserais ce terme d'accident. Bresdin l'a effectivement beaucoup marqué. Il a voulu d'ailleurs plus tard faire le catalogue raisonné de son œuvre. Il a gardé un sentiment très respectueux vis-à-vis de cet artiste. Mais Bresdin, c'était une iconographie très précise, le fantastique dans l'ultra-précision. Je ne sais pas si vraiment l'accident a sa place, mais je reviendrai peut-être à ce terme de surgissement, qui était donc plutôt celui de Redon, effectivement, à partir du réel, puisque Redon maintenait cette idée qu'il partait de l'observation du réel, et qu'ensuite, les choses surgissaient d'elles-mêmes. Et donc, c'est une forme d'accident, finalement, quelque chose qui arrive et qui n'a pas été planifié.
Je pense à des repentirs qu'il donne l'impression de mettre en scène, quasiment, dans certains de ses pastels.
Et puis, il y a aussi
des
parfois...
Des retournements de feuilles.
Une espèce de maladresse qui est un peu déroutante quand on regarde des œuvres de Redon.
Vous avez ressenti cela, Maxime Rossi? C'est vrai qu'il y a parfois une grande naïveté apparente et probablement très calculée dans le trait. Les silhouettes, par exemple, sont très très simples, presque à peine descriptives.
Je trouve qu'en parcourant en tout cas le catalogue avec plusieurs images similaires comme ça, il y a une recherche vraiment de la silhouette, en fait, voilà, de la lisière entre la tête, qui est généralement disproportionnée, un peu grosse, et les couleurs autour. Et parfois, on a l'impression qu'il agence tout ça juste pour créer cette éclipse autour du visage, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est un effet qu'il recherche ou pas, mais on a l'impression que c'est presque cette ligne qui détourne le visage qui l'intéresse, et que tout est agencé juste pour ça, pour créer...
Vous avez raison, d'ailleurs, dans le tableau que nous regardons, la silhouette, le profil que nous observons est surligné de violet. C'est un ton brun, comme ça, surligné de violet tout au long. Et ce violet m'intéresse. J'ai lu dans un ouvrage que ce violet était la partie la moins visible du spectre pour l'œil humain. Ah. Et donc, on se demande, puisque lui s'intéressait énormément à ces théories de la couleur à cette période-là, si ce n'était pas cette perception presque à la limite de l'invisible qui l'intéressait. Est-ce qu'il n'y a pas une valeur métaphorique ? Est-ce qu'un artiste peut penser comme cela, vous pensez ?
Oui, je pense qu'il y a... ce qui peut être intéressant, c'est... ce qui se passe entre le spectateur et une œuvre ou un artiste, et tout ça, c'est ni visible ni calculé. C'est ça, c'est plutôt la partie intéressante. Sinon, on exposerait tous à la maison. Enfin, voilà.
Alors, écoutons à nouveau Odilon Redon parler de l'histoire du cœur.
Chaque homme devrait faire l'histoire de son cœur. Il se mirerait là, il regarderait l'empreinte laissée par ses testaments tendres, instantanés ou lents, toujours involontaires, qui nous ont conduits par des chemins obscurs vers d'autres lumières, toujours et constamment renouvelées, vers des clartés de l'esprit plus hautes et plus belles, où les derniers pas de la vie par élection céleste répercutent l'écho des émotions de l'enfant. Rien ne s'effacera de ces tendres émois. Et je les glorifie et les considère aujourd'hui comme l'histoire éprouvée d'une émancipation quasi religieuse et bénie.
Alors nous écoutions une performance de claquettes dans l'eau pour votre comédie musicale, Maxime Rossi. Et nous poursuivons notre regard sur cet étrange tableau, Le Vitrail d'Odilon Redon, de 1907. Marie-Pierre Salé, lorsque l'on regarde ces figures, ces méandres, est-ce qu'il y a une représentation autour de ce visage ? Est-ce que vous repérez quelque chose qui serait descriptif ?
Je ne crois pas, c'est vraiment un univers coloré. On pourrait dire des fleurs quand même, peut-être, des fleurs. Et puis, on trouvait aussi dans le vocabulaire des critiques contemporains le terme de moisissure, méandre, comme vous l'avez dit.
Corail, peut-être.
Coraux aussi, oui. Parfois, peut-être un peu quelques formes végétales ou serpentines. Et puis, c'est vraiment le plaisir de la couleur. Le pastel avait beaucoup évolué au XIXe siècle, donc les artistes avaient à leur disposition un nuancier vraiment très, très, très étendu. Je ne sais plus, je crois qu'on parle de 350 tons à peu près vers le milieu du XIXe siècle. Donc, il y avait à disposition une infinité de couleurs très intenses, très chargées en pigments qui... je pense, pour un artiste, était aussi extrêmement attractif quand on avait cette palette de pastels sous les yeux et cette envie de... voilà, de...
Alors, il y avait un ami d'Odilon Redon, qui était un des grands pastellistes de l'époque, qui était Degas.
Bien sûr. Hein,
qui a été un pastelliste admirable. Et ils se sont rencontrés assez tard, je crois.
Ils se sont rencontrés, oui. Et je crois que Degas et Redon, c'est vraiment les deux grands pastellistes du 19e siècle. C'est par eux que l'invention du pastel a vraiment beaucoup progressé. Degas expérimentait beaucoup. Ce que ne faisait peut-être pas Redon. Degas, on connaît un petit peu par à Lévy la façon dont il pratiquait le pastel. Il rajoutait de l'eau bouillante sur du calme. C'était une cuisine,
une tambouille
incroyable. D'une certaine façon, Redon est plus classique dans sa pratique du pastel, mais il l'a totalement quand même fait décoller d'un art de salon, d'un art descriptif de salonnier.
Vous êtes aussi assez cuisinier, Maxime Rossi, lorsque vous essayez de mouler des pastilles effervescentes ou bien lorsque vous travaillez des escargots et que leur bave vous intéresse. Qu'est-ce que c'est que la cuisine d'un artiste ?
C'est très variable. Moi, j'ai ma petite chimie, voilà, que j'aime bien. C'est une machine, un peu comme on disait tout à l'heure, une machine à accident. Ça permet de faire des ricochets entre les idées aussi. Ça permet de voir les choses apparaître sous ses yeux. Ça, c'est plutôt un plaisir aussi. Et puis, ça permet d'être spectateur, comme ça, de l'œuvre. Toute cette chimie, en fait, ou toute cette alchimie qui se passe avec des performances. C'est plus comme ça que je le vois, en fait.
Je comprends. Et alors, Marie-Pierre Salé nous parlait de la couleur à ce moment-là. La couleur... me semble-t-il, Marie-Pierre Salé, au XIXe siècle, c'était Delacroix. C'est là que la grande couleur et l'organisation mentale de la couleur a commencé à faire effet par intuition, probablement, et qu'ensuite les travaux de Chevreul sera des scientifiques et des artistes qui les ont inspirés se sont révélés. Comment ça s'est passé, l'aventure de la couleur? Comment peut-on être aussi coloré à ce moment-là?
Alors c'est un peu difficile peut-être de résumer toute l'aventure de la couleur, mais ce qui est certain, c'est que Delacroix a eu un rôle capital, et notamment pour Redon, qui s'y réfère dès ses années de jeunesse et qui garde dans ses derniers pastels les séries sur Apollon, qui sont un hommage à la galerie d'Apollon de Delacroix.
Donc, il a beaucoup copié le motif d'ailleurs
il
d'Apollon.
Il a beaucoup copié le motif, et même lorsqu'il est un artiste donc très, très abouti, très évolué, il continue à avoir cette admiration pour ce maître qui était Delacroix. Mais je reviendrai presque au pastel, puisque finalement, c'est vrai que la technique même du pastel, cette poudre pulvérulente qui est quasiment du pigment pur, quand il y a une très très grande concentration, puisqu'on peut avoir dans le pastel très peu de pigments et beaucoup de charges, et puis inversement, beaucoup beaucoup de pigments, on est presque au niveau de la couleur pure. C'est ça aussi qui intéressera les fauves probablement. Et là, on est en 1907, mais Redon avait donc déjà eu cette espèce de petite exposition personnelle au Salon d'automne de 1904. On est au cœur de la couleur avec cette possibilité technique du pastel, qui est un bâton de couleur pure, pulvérulent. En plus, c'est une matière poudreuse, c'est une matière magnifique.
Alors, Odilon Redon admirait Delacroix, mais il y a beaucoup d'autres, d'ailleurs, on en parlera. Je sais qu'ils se sont croisés, place Furstimbert, et Odilon Redon n'a pas osé le saluer. Il a vu comme quasiment un mythe qui passe. Vous avez des exercices personnels d'admiration, comme ça, d'artistes que vous adoreriez rencontrer, que vous croisez
Non, je préfère le taire pour ne pas être gêné si ça arrive. Mais oui, je rêverais de rencontrer, c'est un vieux rêve d'étudiant, David Ammons, voilà. Ça, c'est un vrai rêve d'étudiant. Ah, oui. Et d'ailleurs, l'image m'a fait
David
penser...
David Ammons est un des plus étranges et très marginal, d'ailleurs, artiste américain, très admiré par... vous pouvez en voir plusieurs en ce moment exposés à la Fondation Cartier, boulevard Raspail. Ils sont absolument sublimes. C'est un artiste qui est à la fois très engagé socialement, mais avec des expressions plastiques qui parlent de ce que c'est qu'être un Afro-Américain à New York et ce que c'est qu'être pauvre, mais toujours avec une poésie et une puissance particulière. Il y en a également en ce moment présenté à la Fondation Pinault, ou à Venise, pour ceux qui ont la chance d'y passer cet été.
C'était fascinant, en fait, pendant la triennale, de voir sur cette tête recouverte de cheveux une des personnes du palais de Tokyo, tous les matins, récupérer les cheveux au pinceau pour les remettre, en fait, sur le crâne. Il y avait un exercice comme ça de coiffure qui continuait tous les jours.
C'est un énorme galet, et avec quelques cheveux mis dessus, et qui étaient des cheveux d'Africains, comme ça, donc très crépus. Et c'est un très beau travail. Et c'est vrai que David Ammons est un artiste, une sorte d'ange difficile à saisir, puisque parmi les professionnels de l'art, on n'arrive jamais à avoir un rendez-vous avec lui, on n'arrive jamais à le trouver. Et donc, il fait partie des artistes assez fascinants, qui produit très peu, qui est très rare.
Et il joue de sa prophétie, en fait. Il avait même proposé une fois, je crois pour la Fondation Cartier, une œuvre qui était un double arc-en-ciel au-dessus du ciel de Paris, le soir du vernissage. Voilà. Et il jouait comme ça de l'aura de l'artiste, justement.
Donc, si vous le croisez quand même, n'hésitez
je
pas à lui parler.
De ma part.
Et donc, dans les grandes admirations d'Odilon Redon, il y a eu une autre amitié qui a été très importante et qui peut-être a de l'importance sur cette question de la couleur. Marie-Pierre Salé, c'est Gauguin.
Oui. Alors, est-ce qu'elle a eu une influence sur sa couleur? Je ne sais pas. J'ai jamais vraiment réfléchi à cette question-là. Mais il est certain que... Il y a aussi chez Gauguin ce refus de la forme académique, de la couleur qui est une couleur réaliste et qui devient une couleur simplement la couleur de l'imagination, la couleur de l'imaginaire de l'artiste. Et ça rapproche évidemment les deux artistes.
Alors, il y a un autre moment, donc peut-être on peut rappeler deux anecdotes. L'une d'entre elles, c'est que Gauguin déclare lorsqu'il part aux Marquises, donc dans le Pacifique, qu'il n'emmènera qu'une seule œuvre qu'il regardera sans cesse, c'est une gravure d'Odilon Redon, La Mort, hein, qui fait partie de ses... ça fait partie de quel cycle? Dans le rêve, c'est cela? Quelque chose comme ça?
Oui, il faudrait vérifier. Non, je crois que c'est une gravure indépendante.
Une gravure indépendante.
Semble, oui,
et alors, et donc, qui plutôt, représente une sorte d'étrange limace, comme ça, avec les cheveux qui partent en arrière, qui donnent l'impression d'être une idole primitive. Il y a souvent cette sensation-là. Et puis, autre chose, c'est Gauguin, quand même, il y a, je crois, une allusion à Gauguin dans un des textes d'Odilon Redon, sur la vision d'après le sermon dans lequel Redon insiste sur le fait que c'est une vision purement mentale et que c'est donc une apparition. La question de l'apparition de la vision au sens d'une vision mystique. Oui. Et en ce sens, peut-être la position du regardeur, la façon dont le regardeur est mis devant le tableau que nous regardons aujourd'hui, le vitrail. Est-ce qu'on n'est pas transposé en face d'une vision plutôt que... Il y a quelque chose qui vous interpelle.
Probablement. Et Redon a aussi été très marqué, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, par Edgar Poe, par les contes fantastiques d'Edgar Poe. Qu'il a illustré avec notamment les dents de Bérénice et ses apparitions, ses visions, tout cet univers mental qui est effectivement très important. Et à propos de Gauguin... Il faut aussi se rappeler que Redon, donc, qui a eu cette carrière très décalée, qui a démarré très tard, est resté très admiré par la jeune avant-garde, par tous ces jeunes artistes, qui, aussi bien les Nabi que Gauguin, qui ont démarré bien après lui et qui étaient très admiratifs de son œuvre et aussi de son personnage, de cette réserve naturelle de Redon, de ce retrait un peu de la vie des cercles artistiques. Et il y a notamment peut-être... Tout le monde a en tête ce fameux tableau de Maurice Denis, l'hommage à Cézanne, dans lequel sont représentés tous ces jeunes artistes, Vuillard, Bonnard, Roussel, Sérusier, aux côtés d'Odilon Redon pour rendre cet hommage à Cézanne dans la galerie de Vollard.
Parce qu'on oublie parfois, on pense toujours à Odilon Redon comme un artiste du 19e siècle. C'est un artiste qui, comme Degas d'ailleurs, qui meurt en 1917,
oui,
Redon
16,
meurt en 1916. Ouais. Donc juste avant, ces artistes qui ont vécu la naissance du 20e siècle et des avant-gardes du 20e siècle. Même s'ils disaient qu'ils ne comprenaient pas très bien ce qui se passait, ils voyaient bien ce qui était en train de se passer. Écoutons à nouveau Odilon Redon nous parler de l'art suggestif.
L'art suggestif est comme une irradiation des choses. Pour le rêve où s'achemine aussi la pensée. Décadence ou non, il est ainsi. Disons plutôt qu'il est croissance, évolution de l'art pour le suprême essor de notre propre vie, son expansion, son plus haut point d'appui ou de maintien moral par nécessaire exaltation. Cet art suggestif est tout entier dans l'art excitateur de la musique, plus librement, radieusement. Mais il est aussi le mien, par une combinaison de divers éléments rapprochés, de formes transposées ou transformées, sans aucun rapport avec les contingences, mais ayant une logique cependant. Toutes les erreurs de la critique commises à mon égard, à mes débuts, furent qu'elle ne vit pas qu'il ne fallait rien définir, rien comprendre, rien limiter, rien préciser. Parce que tout ce qui est sincèrement et docilement nouveau, comme le beau d'ailleurs, porte sa signification en soi-même. La désignation par un titre, mise à mes desseins, est quelquefois de trop, pour ainsi dire. Le titre n'y est justifié que lorsqu'il est vague, indéterminé, et visant même confusément à l'équivoque. Mes desseins inspirent, ils ne se définissent pas, ils ne déterminent rien. Ils nous placent, ainsi que la musique, dans le monde ambigu de l'indéterminé. Ils sont une sorte de métaphore, a dit Rémy de Gourmont, en les situant à part, loin de tout art géométrique. Il y voit une logique imaginative. Je crois que cet écrivain a dit en quelques lignes plus que tout ce qui fut écrit autrefois sur mes premiers travaux. Imaginez des arabesques ou méandres variés se déroulant non sur un plan, mais dans l'espace, avec tout ce que fourniront pour l'esprit les marges profondes et indéterminées du ciel. Imaginez le jeu de leurs lignes projetées et combinées avec les éléments les plus divers, y compris celui d'un visage humain. Si ce visage a les particularités de celui que nous apercevons quotidiennement dans la rue, avec sa vérité fortuite immédiate toute réelle, vous aurez là la combinaison ordinaire de beaucoup de mes dessins. Ils sont donc, sans autre explication qui ne se peut guère plus précise, la répercussion d'une expression humaine placée, par fantaisie permise, dans un jeu d'arabesque où, je crois bien, l'action qui en dérivera dans l'esprit du spectateur l'incitera à des fictions dont les significations seront grandes ou petites selon sa sensibilité et selon son aptitude imaginative à tout agrandir ou rapetisser.
Maxime Rossi, nous sommes en train de regarder donc toujours ce tableau, le vitrail. Le vitrail, c'est un sujet intéressant pour un artiste ?
Oh là là, je m'en sens un peu éloigné.
Vous êtes loin de cela, hein ?
Plutôt loin.
Mais près de la musique, par contre, dont il parle.
Loin et en même temps pas tant que ça, parce que j'avais utilisé des morceaux de lin étant issu de panneaux d'affichage de l'église Saint-Eustache, voilà, dans l'œuvre du Père Lachaise. Mais sur la musicalité, vous voulez dire de l'œuvre de
oui,
Redon ?
Oui, tout à fait.
La musique en général, je ne sais pas, mais oui, sur le sur une ambiance entre l'œuvre et le spectateur, oui, voilà, sur quelque chose qui soit pas seulement mental, mais qui soit sensible aussi.
Parce que très souvent dans votre travail, vous essayez d'atteindre d'autres sons. Il y a cet aspect synesthésique, pour reprendre le terme qu'utilisait Marie-Pierre Salé tout à l'heure en évoquant Baudelaire, puisque Baudelaire était une des lectures préférées d'Odilon Redon. On sait qu'il avait une admiration particulière, je me trompe pas, n'est-ce pas, Marie-Pierre
Salé ? Oui, oui.
Hein, donc, Baudelaire, Mallarmé, on a fait un inventaire de sa bibliothèque d'ailleurs ?
Je crois que Roselyne Bacou avait fait ça, oui, tout, il me semble, ça a dû être publié il y a du vivant de Roselyne Bacou.
Donc dans sa bibliothèque, donc des poètes symbolistes, Nerval aussi très largement.
Probablement,
je crois.
Alors, j'avoue, je ne me souviens plus du détail de sa bibliothèque, mais c'était un grand lecteur. Il avait d'ailleurs eu lui-même à ses tout débuts un peu l'ambition d'être écrivain. Et il avait un peu commencé à écrire. Et
il a fait d'ailleurs beaucoup de critiques d'art. Il a commencé à peindre pour à
Bordeaux,
mais à écrire
à
pour
la Gironde,
à Bordeaux.
Oui, absolument. Et donc il avait une bibliothèque probablement assez éclectique, mais dans laquelle les poètes symbolistes figuraient en très bonne place. Oui.
Alors on parlait tout à l'heure de l'influence d'Odilon Redon sur les autres. Il y a évidemment, vous en parliez tout à l'heure, les artistes Nabi, et le début de Vuillard également, de façon très forte. Et puis il y a Matisse qui en a acheté pour son père, qui a fait cadeau d'un tableau d'Odilon Redon à son père, et Marcel Duchamp qui considère que c'est le grand point de départ de sa vie. Et d'ailleurs quand on voit les premiers Marcel Duchamp, en particulier le coup de vent sur un pommier en fleurs de 1911, je crois, c'est véritablement un Redon. Et donc, ce sont deux contemporains comme ça qui se sont observés. Je me demande si on pourrait considérer Marcel Duchamp comme un grand symboliste. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime Rossi ?
Peut-être avec l'idée de machinerie chez Duchamp. Voilà, dans le grand vers, mais pas seulement. Oui,
la résonance du sens.
Il y a une vibration entre l'œuvre et le texte chez Duchamp. Voilà. Entre ses écrits un peu qui sont un peu du doux délire et ses œuvres complètement opaques, voilà la vibration entre les deux. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose de symboliste.
Vous êtes également un lecteur. Qu'est-ce que vous pensez des lectures de Léon Redon ? Il était sur la bonne piste ? Poésie, ça vous concerne par exemple ?
Oui, c'est plutôt ce que j'aime lire aussi. Mais je parlais de Bachelard tout à l'heure. C'est rigolo parce que ce que retient Redon de Baudelaire, c'est le vague, et ce que retient Bachelard, c'est le vaste. Et c'est rigolo, en fait, d'avoir ces deux sensations complètement différentes autour du même auteur. Voilà, comme si Baudelaire, ça évoquait une vaste vague ou une vague vaste, je sais pas. Enfin, il y a deux cycles, un court, un long, voilà, entre ces deux interprétations qui est intéressante, je trouve.
Est-ce que vous trouvez que Odilon Redon, Marie-Pierre Salé, est-ce que vous trouvez que c'est un aspect, que l'aspect littéraire domine, ou est-ce que c'est plutôt l'aspect spirituel qui domine ?
Probablement l'un et l'autre. Littéraire, ça a été très important à ses débuts.
Oui.
Et puis il était très lié au cercle de l'avant-garde belge autour d'Octave Mauss. Donc tout ça, quand même, le milieu littéraire, et c'est parmi finalement les écrivains qu'il a trouvé ses premiers amateurs, les premiers artistes.
C'est vrai, Huysmans, mais aussi
voilà,
après
Verhaeren.
Une amitié avec Paul Valéry qu'il a rencontré chez Mallarmé.
Gide plus tard. Enfin, donc c'est vraiment, ça a été important à ses débuts. Et puis, excusez-moi, je ne me souviens plus du deuxième volet que vous mentionniez, littéraire.
Et donc l'autre aspect auquel je pense, c'est celui de la spiritualité. Parce qu'on en a parlé un petit peu, parce qu'on sait qu'il ne veut pas se revendiquer particulièrement spirituel.
Oui.
On parle très souvent...
Enfin, spirituel, si, il ne veut pas se rattacher à une religion en particulier.
Parce qu'il a été très sollicité.
Par Maurice Denis, en particulier.
Maurice Denis, le Sarpe-et-la-Dent,
voilà,
les catholiques,
oui,
rénovateurs, les alchimistes,
oui,
la grande vogue occultiste de l'époque.
voilà. Émile Bernard. En tout cas, il était très attaché à la spiritualité. Il lisait aussi les textes hindous, enfin, beaucoup de choses. Il avait une spiritualité extrêmement éclectique.
C'est vrai qu'il y a des peintures faites d'après le Ramayana.
Voilà. Donc, il avait vraiment une spiritualité très ouverte et très éclectique. Et il était très, très hostile à se voir rattaché, notamment à... Par exemple, il a fait plusieurs Christs, mais qui, pour lui, n'étaient pas spécifiquement... Comme cela pouvait l'être pour Maurice Denis, l'expression d'un christianisme militant, ou en tout cas l'expression d'une foi chrétienne. C'était autre chose pour lui.
Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de la théosophie dans son cas ?
Alors, la théosophie, c'est pareil, il l'a récusée un peu en tant que doctrine à laquelle il n'adhérait pas complètement, mais il a connu Philippon, il a été marqué quand même. Bon, le Serpelladan, il a très vite dit que ça lui correspondait pas du tout, mais et puis à Fontfroide, il y avait aussi quand même toute cette culture proche aussi autour de Ricardo Vines, autour de tous les gens qu'il a pu côtoyer également à Fontfroide, mais il gardait son indépendance et cette spiritualité très ouverte.
Et il aura un point commun et qui va sans doute avec Kubka. C'est une sorte de vision très cosmique. Et je pense que chez Kubka, il y a une observation moléculaire qui est un petit peu de cet ordre-là.
Oui, probablement. Et dans les premiers plans, les grands plans colorés de Kubka, il y a cette juxtaposition des couleurs. Et puis Kubka vient aussi de la culture symboliste.
Oui, tout à fait.
Donc oui, le rapprochement est tout à fait...
Est-ce que vous avez l'impression que ces grandes questions, qui étaient les grandes questions de la fin du 19e, du 20e, le rapport entre science et spiritualité, y a-t-il une raison métaphysique, est-ce que c'est encore des questions d'aujourd'hui, Maxime Rossi ?
Je ne sais pas du tout si... Honnêtement, je ne sais pas. J'ai du mal à saisir si c'était... est-ce qu'il a connu la relativité, par exemple ? C'est une question que je me posais tout à l'heure, voilà, parce que... Il parle beaucoup de... Enfin, je ne sais pas s'il mentionne le mot, mais il y a une idée d'immanence dans son travail. Voilà, c'est pas, y a pas de transcendance, quoi. Et du coup, je me demandais s'il avait...
Oui, c'est vrai qu'il y a une plongée métaphysique dans la matière. Ouais. C'est la matière, au fond, qui est célébrée. C'est ce que
je me demandais s'il avait connu cette période de la relativité qui remettait un peu tout en cause tout ce qui avait été fait avant, sans la neutraliser, mais voilà, je pense que...
En tout cas, l'exploration de la matière, c'était vraiment cette période-là, hein, l'analyse des, aussi bien des cristaux, du végétal, des systèmes de croissance, c'est des questions fortes de l'époque.
Donc... Oui, mais est-ce que le cristal, c'est encore un bon symbole pour étudier la psyché, par exemple ? Est-ce que ça marche encore ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, non.
Non, je ne sais pas non plus. Voilà. Je ne sais pas ce que ça nous... Enfin...
Mais aussi l'infiniment petit, l'optique était quelque chose de très important dans son travail, je suppose, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, donc, comme on le disait tout à l'heure, il a été très marqué par la vulgarisation scientifique qui était extrêmement importante à la fin du 19e siècle. Il y avait beaucoup de revues qui publiaient les résultats scientifiques de façon accessible à tous, et lui-même était très intéressé par l'infiniment petit. Donc ça l'a beaucoup marqué, effectivement.
Et quand on fait une comédie musicale, Maxime Rossi, c'est un infiniment grand qui arrive, parce que je pense que c'est un projet
c'est
de plusieurs années.
Au moins un an et demi, mais oui, c'est l'idée, c'est vraiment l'idée du vaste, et c'est vraiment l'idée que ça déplie un... C'est un spectacle extérieur, mais qui déplie quelque chose de plus intime, j'espère, chez le spectateur. Voilà, c'est cette idée-là.
Donc, merci Maxime Rossi, bravo merci. Pour ce grand projet de comédie musicale. Dans un an et demi, je pense qu'on y sera à peu près. Ce sera terminé.
Oh oui, même avant, j'espère.
Même avant.
Oui.
Bon. Merci Marie-Pierre Salé pour vos éclairages indispensables sur l'œuvre magnifique de Dylan Redon. Vous allez retourner au Louvre. Il y a une belle exposition au Louvre en ce moment, non ?
Oui, magnifique, sur le thème de Masques et Mascarons, qui vient d'ouvrir. Il y a aussi une partie sur l'Antiquité, Antiquité grecque, qui est une confrontation des deux univers.
Nous y courons. Merci à tous les deux.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'œuvre de Dylan Redon de 1907 qui s'appelle Le Vitrail, qui représente une femme de profil sous une voûte gothique qui elle est conservée au musée de Zurich, la Kunsthaus de Zurich. Durant l'émission, vous avez pu entendre des musiques choisies par l'artiste invité Maxime Rossi. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Bonjour Claire. Lecture de texte, Olivier Martineau. À la technique, Valérie Lavalard. Merci Valérie. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam. Before you go, babe, go until you come, babe, come until you go, babe. To go.